Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Mon Paris FM présente votre rendez-vous santé de la semaine. Mon Paris Santé.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mon Paris Santé, votre rendez-vous consacré aux sujets qui touchent notre quotidien et notre bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale, un sujet longtemps tabou mais qui concerne chacun d'entre nous à un moment de sa vie. Stress, anxiété, solitude, dépression, charge mentale, difficultés scolaires ou professionnelles, comment reconnaître les signes d'une souffrance psychologique? Comment demander de l'aide et surtout, pourquoi ne faut-il pas avoir honte de consulter? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Maïmouna Sek, psychologue clinicienne. Bonjour Maïmouna.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous aurons également avec nous Tia Media.
Bonjour Sonia.
Ça va, tout va bien?
Et toi?
Et nous accueillons encore une nouvelle fois avec nous nos jeunes lycéens qui ont préparé plusieurs questions pour notre professionnel de santé. Bonjour les enfants.
Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous d'être avec nous. Donc pour commencer... Docteur, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en profondeur?
Donc bonjour à tous, moi c'est Maïmouna Sek, je suis psychologue clinicienne, thérapeute de couple et praticienne en PNL. Donc c'est ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique pour aller changer des schémas de pensée. Donc voilà, je travaille à la fois auprès des jeunes, auprès des adultes et je rencontre souvent cette question effectivement autour de la santé mentale.
Alors dites-nous, donc première question, comment définir la santé mentale?
Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, la santé mentale, c'est comment je me sens moi, que ce soit dans mon environnement, que ce soit au quotidien. Donc effectivement, le mot des fois, il est mal utilisé parce que qui parle de santé, quand on va chercher la santé, c'est qu'on peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je donne un exemple, quand on n'a pas de travail, c'est qu'on... On veut trouver un travail, on va aller vers France Travail. Quand on ne se sent pas bien, on va aller chez le médecin. Et pourquoi? Pour notre santé. La santé mentale, c'est exactement la même chose. Quand on vient parler de santé mentale, c'est venir se questionner, est-ce que je vais bien psychiquement? Est-ce que je me sens bien dans ma vie? Est-ce que je ressens des émotions, des sentiments négatifs qui viennent m'impacter au quotidien?
Merci beaucoup. Et quelle est la réelle différence avec la maladie physique? On connaît un petit peu plus, qu'on a depuis tout petit, on en entend parler, alors que la santé mentale, ça reste quelque chose qu'on peut découvrir qu'à l'âge adulte. Pourquoi?
Bah en fait, c'est plutôt, je dirais, une prise de conscience. La maladie physique, on en parle beaucoup. Aller voir le médecin, c'est un petit peu quelque chose de normal. Hein. On a même des rendez-vous réguliers pour les enfants dès la naissance où il faut aller voir un médecin. La santé mentale, on en parle un petit peu moins. On en parle un peu moins aussi du bien-être mental. On se pose moins la question de comment je me sens dans mon quotidien, en réalité, comment je me sens au travail, comment je me sens avec mes pairs. Est-ce que ma relation avec ma mère, avec mon frère, avec ma sœur, elle me convient ou pas? On est dans une société où on nous dit un petit peu comment on doit se comporter, comment on doit fonctionner, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est quoi être heureux aussi. Et quand on se rend compte que ça ne nous convient pas, c'est à partir de là qu'on commence à se poser des questions. Et malheureusement, on nous invite pas à se connaître soi-même. Et quand on va vers cette recherche-là, c'est là qu'on se rend compte que peut-être que mentalement, ça va pas.
Vous avez parlé de prise de conscience. Est-ce qu'il y a un âge précis ou une tranche d'âge où cette prise de conscience est présente?
Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Parce que, par exemple, je le vois au cabinet, j'ai des jeunes qui vont s'en rendre compte à partir de 12 ans parce qu'ils ont vécu un événement qui les a marqués, ils ont vécu un traumatisme qui font qu'ils vont tellement mal qu'ils ont besoin d'aide, d'accompagnement. Et il y en a d'autres, c'est à l'âge d'adulte en réalité. Je pense que c'est au moment où la personne se rend compte que là, dans ma vie, je commence à perdre pied, je ne trouve plus de solution et je me questionne pourquoi. Pourquoi je me sens aussi mal que ça et comment je pourrais trouver de l'aide. La plupart du temps, on va directement voir le médecin. On lui dit « je ne vais pas bien », on va parler de dépression, je suis anxieux et tout. Et le médecin, c'est lui qui va la plupart du temps rediriger. Donc, en fonction des symptômes, il va soit dire « ce serait bien de faire une thérapie, donc aller voir un psychologue » ou « ce serait bien d'aller plus loin » et là, on va aller plus dans tout ce qui est aller voir un psychiatre. qui a besoin d'un traitement.
Pour pouvoir différencier, on va dire, un état juste passager, peut-être dû à une grande fatigue ou à, je sais pas, des partiels, des études, d'un état vraiment où on a besoin d'aller consulter un professionnel de santé, psychologue, psychiatre, mis à part le médecin généraliste, est-ce qu'il y a des possibilités pour nous d'avoir déjà des petits indices pour nous dire là, c'est pas juste passager, je dois aller consulter en profondeur et pas juste me reposer quelques heures et ça ira.
Bah ça, c'est quand la douleur psychique, elle devient tellement intense que je fais que y penser. Souvent, il y a des personnes, ça va être de la rumination qui va être intensive, ça va être je me réveille le matin, je suis très anxieux, ça va être aussi j'ai envie de rien faire du tout, je trouve plus de sens à ma vie. Voilà, ça c'est vraiment des petits signes qui font que ma vie, elle change, des perturbations aussi dans ma vie qui font que je ne me sens pas bien. Moi, j'aime bien dire à mes patients, reconnectez-vous à votre corps et posez-vous la question, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que je ressens des palpitations au niveau de mon corps? Est-ce que au niveau de mon esprit, je suis toujours en charge mentale et j'arrive pas à trouver de l'espace pour pouvoir réfléchir? Comment moi je me sens? Je pense que si on se met tous devant notre miroir ou même dans notre chambre et qu'on se pose la question aujourd'hui comment je me sens, pour voir si on arrive à répondre à cette question-là.
Justement, vous avez parlé des jeunes que vous recevez dans votre cabinet. Est-ce qu'on peut voir une augmentation ou est-ce que vous pouvez observer une augmentation chez les consultations pour les plus jeunes? Est-ce que la tranche d'âge, par exemple, des 15-30 ans, comme ceux qui nous écoutent sur Mon Paris Santé, est-ce qu'on peut observer une augmentation des consultations?
Oui, il y a une très, très, très forte augmentation. En fait, depuis le Covid, déjà, il y a une augmentation des consultations de psy, que ce soit pour les adultes comme pour les enfants. Le fait d'avoir été confiné, le fait d'avoir, voilà, on va dire, d'être privé de liberté, ça a créé beaucoup, ça a arrivé beaucoup de mal-être chez beaucoup de personnes. Et donc, en sortant de là, les gens ont voulu comprendre. Donc, en essayant de comprendre, ils sont partis, ils se sont rapprochés d'un professionnel de santé. Et les parents aussi se sont rendus compte aussi que beaucoup de jeunes allaient mal. Et quand ils allaient mal, ils ne parlaient pas. Ils se renfermaient dans leur chambre. Ils passaient à l'acte on a une hausse des TS. On a aussi des jeunes qui se scarifient et qui cachaient ça. Et en fait, la famille a pu s'en rendre compte physiquement. Et aussi, des fois, ça peut être alerté par l'école.
Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une augmentation des troubles psychologiques chez les jeunes ou une augmentation des consultations et que ces troubles-là ont toujours été aussi présents chez la jeune population?
Je dirais une identification qui est plus forte, en fait. Maintenant, les gens font beaucoup attention à la santé mentale parce qu'on en parle de plus en plus. Les parents aussi voient aussi l'impact. Donc, vu que c'est médiatisé, maintenant, la santé mentale, je pense aussi que c'est ce qui permet la prise de conscience.
D'accord. Donc, au niveau des médias, par exemple, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, est-ce que ça joue aussi un rôle important?
Oui. Les réseaux sociaux, en fait, il y a deux versants, exactement. Il y a le côté bien des réseaux sociaux, parce que quand je suis en accord avec moi-même, avec la personne que je veux être, les réseaux sociaux, en réalité, ça peut être quelque chose de bien. Mais quand je vais mal et que je vais sur les réseaux sociaux et que j'ai l'impression que tout le monde est heureux à part moi, c'est là que ça devient compliqué. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu le journal, les médias. On va regarder toute ce qui se passe dans le monde, qui est pas très 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 foufou, où on va être peiné par ça. Et après, on va 2 secondes après aller sur les réseaux sociaux et se dire mais en fait tout le monde est heureux, tout le monde est bien. Mais pourquoi moi je ressens ça et pourquoi je suis mal?
Oui, donc tout dépend de ce que nous on va regarder, de ce qu'on va décider. Sur quoi s'appuyer, quoi? Par exemple, vous, là, les enfants, qu'est-ce que vous regardez généralement sur les réseaux? La belle vie des gens ou c'est un petit peu mélangé?
C'est aléatoire selon le fil d'actualité qu'on a. Pas forcément les mêmes choses. On a tous un fil d'actualité différent, donc c'est un peu, tout est mélangé.
Et est-ce que quand vous regardez, quand vous suivez des personnalités publiques et que vous voyez la belle vie qu'ils peuvent avoir, est-ce que ça a un impact sur vous? Est-ce que vous dites, je veux être comme ci ou pourquoi pas moi ou...
Non. Des fois, il y a juste des blagues dessus qui sont faites, mais sinon, non, pas tellement.
Non.
Parce qu'on sait que c'est les réseaux, c'est pas la vraie vie. Donc,
Est-ce que vous en êtes tous conscients que c'est les réseaux et pas la vraie vie pour beaucoup d'informations?
En fait, moi,
Moi, un peu des deux.
Ouais, un peu des deux. Parce que après, moi, mon fil d'actualité sera plus le football. Je regarde plus le football, surtout actuellement avec la Coupe du Monde. Mais je regarde pas trop ce que les gens ont, la possession, ça. C'est pas mon truc.
Donc le football, tu vas pas t'intéresser à ce que gagnent les joueurs, leur train de vie?
Ouais, bah, par exemple, s'il y a un transfert d'un club, ça je vais regarder. Mais genre, je vais pas me dire, ouais, dommage, je suis pas footballeur, lui il gagne, comme Mbappé, il gagne 30 millions par an. Ouais,
t'arrives à te déconnecter et te concentrer seulement sur l'aspect sportif que t'aimes. Et pas à être entraîné sur leur vie et tout
ce qu'on... Non, ouais, je suis pas attiré par... on est tous attirés par... en vrai, c'est une belle vie qu'ils ont, entre guillemets, enfin...
Oui.
C'est la célébrité, peut... ouais.
Voilà, ouais. C'est la belle vie qu'ils ont.
Bah, j'aurais bien voulu, mais malheureusement, actuellement, c'est pas possible. Mais moi, j'aimerais bien travailler dans le milieu du football, en tout cas.
D'accord.
Vu que c'est une passion.
Parce qu'en fait, effectivement, c'est souvent quand on s'accroche à quelque chose. S'il souhaitait devenir footballeur professionnel, et ben là, en fait, ce serait un idéal de vie pour lui. Et le fait de ne pas l'atteindre, ça peut créer ce mal-être-là. Sauf que là, effectivement, il est détaché parce que, bon, et comme il a dit, il aurait bien aimé, mais il se dit, bah, là, ce n'est pas possible. Il aimerait bien travailler dans ce milieu-là. Donc, il arrive quand même à avoir un détachement.
Parce que, mais il a quand même dit... je suis détachée, mais bon, on ne peut pas nier qu'ils ont la belle vie. Et cette phrase-là, moi, ça, elle m'intéresse beaucoup parce que c'est ce qu'on pense souvent des personnes qu'on suit, qu'on observe à travers les écrans, qu'ils ont une belle vie, parce que c'est la seule façade de leur vie qu'on voit, mais la réalité est peut-être tout autre. Et c'est peut-être là le piège des réseaux sociaux et de tous les médias d'ailleurs.
Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, chacun montre ce qu'il a envie de montrer en réalité. Il y a peu de personnes qui vont se filmer, même si on en a quelques-unes, qui vont se filmer dans leur lit en train de pleurer, qui vont se filmer quand ils sont dans des phases de déprime. Voilà, c'est des moments de notre vie qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Donc, on ne va pas le mettre sur les réseaux. Quand on met sur les réseaux, on montre vraiment la meilleure partie de notre journée, voilà, les meilleurs moments qu'on a, parce qu'on est dans le partage. Et malheureusement, les réseaux sont faits pour essayer d'avoir des j'aime, d'avoir des commentaires, tout ça. Donc, effectivement, quand on va ouvrir les réseaux, à part, comme elle a pu dire, en fonction des contenus qu'on peut avoir, eh ben, les personnes vont montrer que le meilleur de leur vie.
C'est ça qui peut être, donc, de ce que vous disiez au début.
C'est ce qui attire le plus.
C'est ce qui attire la belle...
L'attention des gens et l'argent, en fait, tout simplement.
Et est-ce que, docteur, ça nous impacte le fait de, même si on est détaché et qu'on se dit « Non, je ne veux pas avoir la même vie, non, je ne veux pas être footballeur, je ne veux pas être grande star », est-ce que ça nous impacte quand même de regarder tous ces contenus à longueur de journée sur notre quotidien, même si on sait que c'est pas possible d'avoir ce train de vie là, le fait de tout le temps vouloir le regarder, de le regarder quand même alors que c'est pas représentatif de notre vie actuelle, est-ce que ça a quand même un impact dont on se rend pas compte, donc inconsciemment?
Bien sûr, c'est un impact en fait ça vient agir émotionnellement et des fois on a l'impression que on a besoin d'avoir conscience des choses pour que ça nous atteigne, alors que pas du tout. Des fois ça vient juste atteindre notre inconscient et on s'en rend pas compte. Et plus le temps y passe, et quand on va travailler en profondeur, moi j'ai des patients par exemple avec qui que j'ai pu accompagner. Voilà, un exemple, elle suivait une influenceuse en disant oh, bah c'est cool, je l'ai rencontrée dans telle émission, c'est juste parce qu'elle est drôle. Et en fait, inconsciemment, elle commençait à nourrir l'envie d'avoir la même vie que cette influenceuse-là, de gagner de l'argent rapidement juste par la télé, sauf qu'elle n'était pas en accord avec ça parce qu'être devant la caméra, ça ne l'intéressait pas. Mais elle a développé petit à petit un mal-être qu'elle n'arrivait pas à identifier du fait que pourquoi cette fille-là est aussi à l'aise devant la caméra, elle a cette vie-là, et moi, je n'arrive pas à être à l'aise devant la caméra ou à avoir cette vie-là. Donc, petit à petit, elle est tombée en déprime, elle ne trouvait plus de sens à sa vie en réalité, le travail, ça ne l'intéressait plus, elle ne travaillait plus trop. Et en fait, ça, c'était juste inconscient. Et quand on a commencé
sans s'en rendre compte.
Ouais.
On peut changer notre quotidien petit à petit et en fait, il n'y a pas un regard extérieur qui fait que... D'accord, donc voilà, les enfants là, il faut faire attention. Pour revenir sur votre réflexion de « je ne suis pas détachée, je suis totalement détachée », qu'est-ce qu'on peut faire pour...
Pour quoi?
Pour éviter justement de tomber dans là comme votre patiente, se rendre compte, on va dire, plus rapidement de cet inconscient qui va nous... qui va être en nous sans qu'on s'en rende compte avant que ça soit trop tard pour eux.
Bah, donc, encore une fois, c'est travailler sur soi. Mmh. On conseille à tout le monde d'aller voir un psychologue. Voilà, il y en a plein qui disent « Oui, mais aller voir un psychologue, c'est qu'on est fou. » Non, on n'est pas fou. C'est juste, des fois même pour se questionner, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Voilà, je vais aller voir
Ils sont d'accord avec voir un psychologue, ce n'est pas important. Être fou. Ouais. C'est important.
Même si, par exemple, on va dire tout va bien dans notre vie, en vrai, des fois, parler à quelqu'un à cœur ouvert, ça ne fait pas de mal.
Mmh. Surtout
quelqu'un de neutre.
C'est ça.
Ouais, parce qu'effectivement, parler à quelqu'un, ça fait du bien, mais quand on va parler aux personnes de notre famille ou à nos amis, il y a le côté émotionnel qui rentre en jeu. Exactement. Alors que le psychologue, il est neutre, il est détaché, et il va pouvoir identifier des choses que nous, on ne voit pas, ouais, il va pouvoir faire des liens, des ponts.
Il a une autre vision par rapport à notre entourage ou d'autres personnes.
Ça sera sans jugement par rapport à la vie privée.
Exactement.
Vie privée, culturelle, religieuse, il n'y aura pas cet aspect-là chez les professionnels de santé qui vont, pas biaiser, mais qui vont donc, quand on veut aider quelqu'un, ça rentre forcément en compte, alors que chez un professionnel de santé, ce côté-là reste de côté.
Ouais.
C'est le secret médical aussi. Il y a le secret médical qui est bien.
Donc ça peut permettre à certains d'être plus à l'aise pour discuter de certains sujets. Ouais. Et est-ce que on vous a déjà parlé des psychologues?
Ouais.
À l'école, au lycée ou...
Ouais, en dehors, ouais. Moi j'ai déjà parlé.
Oh, t'en as déjà parlé, mais est-ce que c'est une idée qui t'est venue toi-même ou est-ce qu'on te l'a conseillé?
En fait, parce que moi j'ai eu des problèmes de santé qui fait que j'ai dû rater beaucoup l'école. Et indirectement, on m'a mis voir un psychologue pour savoir si tout va bien, parce que c'est difficile d'être un enfant de 6 ans, tout ça. D'avoir 6 ans et de rater beaucoup les cours, aller à l'hôpital souvent, etc.
Merci. On reviendra sur le sujet de la scolarité et de la santé mentale tout à l'heure. Mais juste avant, je voudrais demander à Tia. Tia, tu as l'habitude de recevoir dans ton média des personnalités. Tout à l'heure, on en parlait. Donc, c'est Tia Handicap. Donc, est-ce que toi, tu as pu avoir des témoignages de personnalités justement publiques qui justement casse ce côté de belle vie qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou à la télé, tout simplement, de l'image que des gens font d'eux, qui n'est peut-être pas la vraie vie.
Exactement. Très bonne question, Sonia. Tout à fait. J'ai reçu donc dernièrement Pierre Rosier, qui est donc le chanteur qui chante la chanson « Ici, tout Paris ». Qui est lancé donc sur les réseaux sociaux. Il a en fait un handicap qui a eu quelques années en fait l'AVC. Et on a parlé justement de quelles conditions il a eues lors de son AVC. Et il utilise énormément aujourd'hui l'IA par rapport à sa reconstruction au niveau de l'AVC. Donc effectivement, j'interviewe beaucoup d'artistes qui eux-mêmes se battent face à ce problème d'handicap invisible. Voilà.
Merci. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, toi aussi, tu te bats au quotidien avec un handicap invisible? Tu as accepté de nous en parler. Est-ce que tu peux nous présenter ton handicap et l'impact qu'il a sur ta vie et surtout sur ton mental?
Eh bien oui, tout à fait. Donc ça va faire maintenant plus de 12 ans que je me bats face à cette maladie handicapante qui est donc la thyroïde d'Hashimoto, une maladie auto-immune qui, il y a quelques années, m'a engendré des difficultés physiques et psychologiques. Ça a été très dur au niveau de ma reconstruction. Il a fallu vraiment beaucoup de temps et c'est vrai que ça a engendré des complications au niveau professionnel aussi et au niveau familial, mais aujourd'hui, grâce à la radio que j'ai créée, ça m'a permis de pouvoir me reconstruire et de pouvoir faire en sorte de cet handicap une force.
Quand est-ce que tu as eu le diagnostic?
C'était en 2019.
Et qu'est-ce que tu as pu ressentir à ce moment-là? Tu avais quel âge?
Oh, bonne question, j'avais quel âge? Je ne sais plus, malheureusement, ça fait tellement longtemps que j'ai oublié l'âge que j'avais. Écoutez, à l'époque, quand on m'a dit que j'avais cette maladie, ça m'a détruit ma vie et j'ai eu énormément de problèmes physiques et psychologiques, déjà au niveau de la mémoire. La thyroïde engendre beaucoup de problèmes de mémoire. J'ai eu une phlébite, embolie pulmonaire et cardiaque et AVC, donc paralysée de tout le côté gauche.
Ah, ça, c'est beaucoup de choses en même temps. Docteur, oui. Est-ce que, déjà, je voudrais revenir sur le fait qu'elle ait oublié l'âge où est-ce qu'elle a pu avoir cette nouvelle, donc qui a quand même transformé sa vie. Est-ce que c'est un lien avec peut-être le choc qu'elle a eu à ce moment-là qui fait que certaines parties de sa vie ont été mises de côté par son esprit ?
Bien sûr, c'est possible. En fait, notre inconscient, il est là pour nous protéger en réalité. Donc, il y a des parties de notre vie qu'on peut vivre. C'est pas qu'on ne se souvient pas de tout. Mais j'aime bien cette image de l'iceberg. Notre conscience, qu'on a la conscience est tout en haut et tout en bas, en fait, c'est la partie émergée d'iceberg. En fait, c'est notre inconscient. Donc, c'est possible que son inconscient, pour l'accompagner, pour pas qu'elle s'effondre, a pu mettre de côté ces souvenirs-là, en tout cas, et pour qu'elle puisse continuer à avancer.
Est-ce que c'est fréquent au niveau des personnes atteintes de maladies auto-immunes d'avoir ces inquiétudes, ces difficultés émotionnelles cette protection de l'inconscient qu'on a?
Oui, oui, c'est très fréquent parce que, comme on a dit et comme elle a pu expliquer, elle a dû se battre en fait au quotidien. Donc le corps a besoin d'énergie. Et le cerveau a besoin d'être présent aussi pour pouvoir accompagner le corps.
Et au niveau de sa maladie, est-ce que vous savez, vous peut-être, qu'est-ce qui devrait alerter une personne qui est atteinte de cette maladie-là pour aller consulter un psychologue et pas seulement, donc je suppose que quand on a cette maladie-là, on est d'abord pris par les différentes prises en charge médicales, il y a beaucoup de choses à penser, mais le côté mental, peut-être qu'il n'est pas mis de côté, mais souvent fait tardivement, parce qu'il y a tellement de choses à faire en amont qu'on ne pense pas à aller se décharger mentalement, aller en discuter à une personne neutre. On est là avec les autres professionnels de santé, la famille, le fait d'accepter la maladie. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait mettre en place au niveau du corps médical, peut-être pour que tout soit un petit peu lié et qu'on n'ait pas cette charge-là qui tombe tardivement.
Bah après, effectivement, dans le soin, le médecin, je ne sais pas s'il a fait ou pas, mais déjà, dans un premier temps, pouvoir dire à la patiente d'aller consulter un psychologue pour qu'elle puisse se décharger. Mais après, les signes, effectivement, ça va être les troubles du sommeil, ça va être l'isolement, ça va être une tristesse quand on est triste et on voit qu'on n'arrive pas à sortir de cette tristesse-là. Il y a encore plein de signes, hein. Je vous avoue que là, il y a plein de signes. Il y a l'anxiété aussi.
Il y a énormément de signes.
Voilà, il y a de l'anxiété aussi.
Tu te reconnais dans tous les signes-là
qui
ont été présentés ?
Oui, tout à fait, Sonia. Tu l'as bien expliqué, hein, très bien d'ailleurs. Effectivement, quand on se sent mal et pas compris, que ce soit des hommes ou des femmes, et moi particulièrement moi, au niveau de la maladie que j'ai eue durant toutes ces années, déjà, il y a la famille qui n'arrive pas à comprendre votre maladie, qui pense que vous mentez, en fait, parce qu'ils ne comprennent pas que la thyroïde d'Hashimoto ne se comprend pas et ne se voit pas, en fait. Donc, moi, à l'époque, j'ai eu quand même 13 ganglions dans la gorge. Donc, c'est des ganglions qui m'ont empêché de vivre. J'ai failli m'étouffer plus d'une fois. Quand vous avez des ganglions qui se mettent à gonfler dans la gorge et que vous n'arrivez plus à respirer ni à avaler quoi que ce soit et que vous risquez de mourir à tout moment et que votre famille ne comprend pas votre détresse, c'est quelque chose d'horrible, en fait.
Oui, bien sûr. Et en fait, ce que les personnes... n'arrive pas à comprendre. Bah, je sais pas si c'est qu'on n'arrive pas à comprendre, mais c'est pas expliqué. C'est le fait que
c'est des maladies qu'on ne connaît pas.
C'est des maladies qu'on ne connaît pas, mais c'est pas que ça. C'est qu'en fait, souvent, ce qu'on va ressentir émotionnellement, le travail qu'on ne fait pas, et c'est notre corps. Ça passe par notre corps. Donc, c'est ça qui va créer des douleurs chroniques, qui va créer des maladies que notre corps va effectivement créer pour pouvoir nous alerter. Il y a quelque chose qui ne va pas.
En fait,
il y a quelque chose qui ne va pas et il faut prendre soin de moi. Et en fait, on a des fois, c'est là où le corps médical peut un peu se tromper, c'est qu'ils se disent, bon, la maladie, elle est là, on va traiter la maladie. Et en fait, la grande majorité du temps, il faut traiter aussi le côté psychologique parce que c'est de là que tout a commencé. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrivent à guérir du cancer en alliant le côté psy et le côté soin.
Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que par rapport à mon expérience de ma maladie, au départ, c'est vrai que les médecins n'ont pas su m'expliquer en fait ce qui m'arrivait. Et vous savez, quand vous avez un médecin qui arrive dans le box à l'hôpital et qui vous annonce que vous allez mourir, ben, la première chose que j'ai faite, en fait, j'ai pleuré, j'ai rigolé. Parce que c'est nerveux. Parce qu'on vous dit, vous allez mourir. Donc moi, j'avais quand même ma fille, ma petite, qui était pas loin de moi. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que ma fille va devenir ? Parce que je vais mourir. Donc il n'y a pas ce côté, on va dire, humain à l'hôpital. C'est-à-dire que les médecins, quand ils viennent, bon, ils ne sont pas là pour être psychologues, mais il y a une manière d'annoncer les choses. Et ils n'ont pas eu la manière, en fait.
Effectivement. En fait, des fois, il manque ce côté psychologique, même pour les... Voilà, j'ai pu rencontrer des femmes qui ont accouché, où elles disaient, bah, voilà, la sage-femme, elle est arrivée, elle a dit, ça, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça, il va vous arriver ça. Et elles avaient besoin, à ce moment-là, de ce côté empathique, très humain. Et parfois, malheureusement, c'est vrai que dans le corps médical, ils attendent vers la fin, quand ils se disent, bon, bah, au niveau soins, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, maintenant, on va aller questionner ce côté psychologique. Après, d'un côté, comment vous dire ça ? Il y a un dicton, on va dire, que mon père me dit toujours, c'est un médecin, c'est un peu comme un chirurgien, il doit pas avoir d'émotion s'il veut bien faire son travail.
Oui, c'est ce qu'on nous dit souvent, parce que voilà, le côté émotionnel chez eux aussi, donc c'est...
Oui, c'est ça.
c'est compliqué à comprendre, mais c'est vrai que quand on se renseigne sur un petit peu tous les corps de métier, chacun son travail, il y a des situations qui sont difficiles à comprendre, mais les choix sont... Si tous les médecins devaient se mettre à la place de chaque patient, ça doit être... On n'aura pas assez de psychologues.
Exactement.
Et je réponds, si je peux me permettre, à ce que tu disais tout à l'heure, Sonia, par rapport à la psychologie, en fait...
Est-ce qu'on t'a orientée, toi, ou toute seule ?
Non, je me suis orientée toute seule.
Seule.
C'est-à-dire qu'à l'époque, ma famille voulait me mettre en maison de repos, et moi, j'avais dit que non, je ne voulais pas. C'était pour moi hors de question, et c'est de là, en fait, qu'est venu... comme j'ai eu mon AVC,
oui.
C'est pour ça que des fois j'ai des pertes de mémoire en gros. C'est-à-dire que l'AVC a engendré une partie de moi qui fait que la mémoire des fois me joue des tours et que je n'arrive pas à réfléchir en gros. Et tout à l'heure tu parlais justement de fatigue et de stress. Bien évidemment la fatigue elle est de plus en plus là parce que je vieillis aussi. Et des fois à cause de mon AVC, du moins... Mes deux AVC, j'en ai eu deux, 2017 et 2019, c'était très difficile pour moi, en fait, au niveau de la concentration. Ouais. Et c'est pour ça que le fait, quand tu parlais tout à l'heure de psychiatre ou de psychologue, excusez-moi, j'ai rien contre les psychologues et les psychiatres, mais ils font leur... En fait, je ne vais pas non plus les dénigrer, parce qu'on n'est pas là pour les dénigrer, mais moi, je ne suis pas pour... Après, chacun...
Chacun son expérience personnelle.
Voilà, exactement, Sonia. Chacun voit comme il veut, mais moi, en tout cas, je me suis battue grâce déjà à l'amour de ma fille, qui est présente là aujourd'hui, Mathilde, que j'aime de tout mon cœur. Et elle m'a donné, en fait, l'envie de me battre. Et le fait aussi d'avoir des gens qui vous aiment autour de vous, c'est très important. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Parce que justement, le positif va vous donner la positive attitude dans votre cerveau. C'est-à-dire, comme j'ai toujours dit, c'est pas la maladie qui va faire votre vie, c'est vous-même qui allez commander votre cerveau.
Merci beaucoup, Tia. Je pense que après cette dernière phrase joliment présentée, on va faire une petite pause musicale avant de revenir sur le sujet des jeunes, de la scolarité, de la santé mentale. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Je m'appelle Natalia. Il me dit je t'aime, il me parle de famille. Il me dit dose la marijuana. Si tu veux du stress avec lui, viens voir, oui, il y en a. Mais on m'appelle Madame Caillou. Cœur rebelle et sans cahier. Ça compte pas, belle maison cahier. Je l'excès déjà sans carrière. Cette chic non-bas.
sur ma route, je lui dirai d'aller se faire foutre.
De retour sur Mon Paris Santé, bonjour à tous, bonjour à nos invités. Nous avons avec nous aujourd'hui le docteur psychologue et clinicienne Maïmouna Sek, rebonjour.
Rebonjour.
Nous avons avec nous les jeunes stagiaires du centre Odiné.
Bonjour.
Et nous avons avec nous Tia, notre chroniqueuse et témoin du jour.
Bonjour Sonia.
Bonjour, alors cette deuxième partie de l'émission sera consacrée aux questions des jeunes en lien avec la santé mentale et leur vie quotidienne ainsi que leur scolarité. Donc, docteur, enfin, de nombreuses personnes ne savent pas vers qui se tourner lorsqu'elles ont besoin. Quand on est jeune et même quand on est adulte, on ne fait pas forcément la différence entre anxiété, stress, fatigue ou juste coup de mou comme ça. On ne sait pas trop s'il faut aller consulter, s'il faut dormir, s'il faut prendre un café. donc aujourd'hui, on va essayer de décortiquer tout ça. Et, alors, qui veut commencer? Par où? Allez, Noé.
Okay, bah, en fait, on avait une question. Comment le cerveau est modifié par une addiction?
Waouh.
Très bonne question.
Ouais, très bonne question, mais c'est une question sur laquelle je ne pourrais pas répondre parce que je ne suis pas professionnelle en addictologie. Donc, je vous invite à inviter un psychologue voilà, expert en addictologie. Je n'ai pas envie de dire de bêtises là-dessus.
C'est un rapport avec le chemin de la récompense qui est totalement... qui est totalement genre, tué, on va dire, parce que... C'est comme avec le sucre, par exemple. Mm-hmm. Le sucre, c'est pour beaucoup de médecins, c'est la pire drogue au monde parce que le sucre, en fait, on le voit pas.
Oui.
Donc
on mange, on mange, on mange.
On en trouve partout aussi.
Ouais, on en trouve partout. On mange, on mange et on compte pas combien on a mangé. Contrairement à une cigarette, bah tu vas dire, ah, aujourd'hui j'en ai pris 10. Bah je vais arrêter quand même.
Après, t'as dit un truc très 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 intéressant. Bon, c'est pas lié forcément à la question, mais effectivement, c'est le fait que dans l'addiction, il y a ce côté récompense. Et il y a ce côté, effectivement, par exemple, je prends la cigarette, je me sens pas bien, je me sens stressée, le fait de fumer me permet de m'apaiser, le fait de souffler la fumée crée chez moi, dans mon système nerveux, ce sentiment d'apaisement, donc j'en ai besoin. Donc,
est-ce que la question, ça ne serait pas plutôt, quand on ne va pas bien, au lieu d'aller consulter un professionnel de santé, on se dirige directement vers... ce qui est maintenant considéré comme des addictions, parce que beaucoup de gens en consomment, et voilà, donc la cigarette, le sucre, les jeux vidéo, quelles que soient les personnes, au lieu d'aller consulter un professionnel de santé, ils vont se focaliser sur quelque chose, que ça soit donc quelque chose de... enfin, je pense qu'à partir du moment où ça devient une addiction, c'est forcément néfaste, mais voilà, ils vont se consacrer à une chose précise qu'ils vont faire ou manger ou tout le temps. Donc pourquoi... Pourquoi on va vers ce chemin-là avant de se dire « bon, je dois aller voir un professionnel ?»
Ah, cette question me parle plutôt un peu plus que dans le cerveau.
Je pense que c'est ce que les enfants veulent.
D'accord. Effectivement, en fait, dans le schéma d'une personne qui est addict, que ce soit au sucre, que ce soit aux jeux vidéo, que ce soit à la cigarette,
voilà,
ou
au shopping,
chose,
voilà, peu importe.
C'est vraiment, effectivement, comme il a dit tout à l'heure, et qui était très intéressant, c'est ce système de récompense immédiat. Quand on va voir un psychologue, c'est pas dès la première séance qu'on ressort et hop, la plupart du temps, on passe par le côté douloureux pour ensuite trouver les solutions. Moi, j'aime bien dire, voilà, quand on va voir un psy, c'est j'identifie, j'accepte et ensuite, je vais pour trouver les solutions. Alors que l'addiction, comme on a dit tout à l'heure, c'est immédiatement. Là, tout de suite, j'ai besoin de sucre, je prends mon sucre, mon cerveau, il se calme et je passe à autre chose. Donc, quand on est mal, c'est vrai que la société, on est dans une société de consommation, a favorisé ces gestes qu'on a, qui sont devenus en fait des habitudes. Alors que le psychologue, on n'en parle que depuis peu de temps.
Alors, ça répond à votre question ?
Oui, ouais.
Mais on peut préciser que donc c'est une récompense immédiate, mais finalement jamais satisfaisante, vu qu'on retourne vers cette récompense-là fréquemment, d'où le terme d'addiction.
Oui, addiction, c'est vraiment c'est quand on n'arrive pas à s'en défaire. On n'arrive pas du tout à s'en défaire. Et même quand on souhaite arrêter, eh ben, on ne peut pas.
Ça devient un nouveau problème et donc une nouvelle raison pour aller consulter un psychologue. Vas-y, je t'en prie.
Ok, moi j'avais une question qui touche tout le monde et même les adultes aussi. C'est pourquoi la qualité du sommeil est-elle importante pour la santé mentale et comment aussi ?
Parce que le corps, il a besoin de se reposer, il a besoin d'énergie, on a besoin d'avoir toutes nos capacités pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir être bien dans notre journée. Quand on est en face à un problème, si on est fatigué déjà, que ce soit psychologiquement ou physiquement, il est compliqué pour nous de faire face à ça. C'est pour ça que y a beaucoup de médecins qui vont dire « oui, il faut minimum 7-8 heures de sommeil », mais ce n'est pas totalement vrai. Ça va dépendre des personnes. Voilà, les personnes qui sont TDAH, par exemple, qui sont très hyperactifs, avoir 8 heures de sommeil, c'est très compliqué pour eux. Mais avoir 3-4 heures de sommeil, ils vont faire leur plein d'énergie. Donc c'est important aussi de connaître son système de sommeil pour pouvoir savoir à quel moment je suis vraiment bien reposée.
Merci déjà d'avoir répondu à la question. Et on avait une autre question. C'est quoi les risques pour la santé mentale lorsqu'on manque de sommeil ou d'activité physique ?
Les risques pour la santé mentale, c'est les moments où ça ne va pas aller, les moments comme on appelle ça de bad, de rentrer dans une tristesse qui va être profonde et de ne pas réussir à se relever de cette tristesse-là. Donc quand au niveau du sommeil, on n'a pas un sommeil qui est réparateur, surtout, quand on va être mal, c'est le moment où on n'a pas envie de bouger de notre lit, on ne trouve même pas la force d'aller se laver, même aller aux toilettes, on se dit « pourquoi je vais aller aux toilettes ?» donc c'est pour ça qu'effectivement, ça peut avoir un très grand impact.
D'accord, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Du coup, moi, j'ai une autre question. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite améliorer sa santé mentale grâce à son mode de vie ?
Déjà, c'est trouver ce avec quoi je suis en accord. Moi, je prône pas du tout il faut manger de la salade tous les jours, il faut faire du sport tous les jours. Non, il faut trouver quelque chose qui vous convienne. Par exemple, si pour moi le sport c'est pas trop ça, mais je préfère lire, mettre dans ma vie, dans mon quotidien, une routine de lecture. Si effectivement l'activité physique c'est très important, donc même si je vais pas à la salle de sport, aller marcher ça peut faire du bien, donc éviter les fast-food tous les jours. Hein, les jeunes?
Pas à vie, juste tous les jours.
Oui,
ça
juste
va.
Tous les jours. Donc voilà, oui, voilà. Donc vraiment, le conseil, c'est de mettre des habitudes en place dans son quotidien, mais en fonction de ce qui me fait du bien à moi, sans tomber dans le côté addiction, parce qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais moi, c'est les jeux vidéo. » Oui, mais si tu ne passes pas toute ta journée devant les jeux vidéo ou toute ta nuit devant les jeux vidéo, ça va perturber ton sommeil, ça peut être un moment de plaisir.
Donc, il vaut mieux avoir des petites choses à appliquer dans la vie quotidienne sur du long terme qui vont nous faire du bien,
oui,
plutôt qu'à l'instant T, où plus tard, ça risque d'avoir des répercussions, que ça soit mentale ou physique, d'ailleurs.
Exactement.
Les garçons ?
Ils sont pas là, les garçons.
Vous leur avez dit jeux vidéo toute la nuit, ça y est, c'est...
discutons.
Ah, tiens, pas
de souci. Oui, éventuellement, si c'est possible, j'aurais une question. Est-ce qu'à partir d'un certain âge, on arrive à moins dormir ? Parce qu'il paraît qu'à partir de 50 ans,
ouais,
on a perdu ses 8 heures de sommeil.
Cette question, je pourrais même pas y répondre. Peut-être serait peut-être un médecin qui pourrait vraiment des études scientifiques là-dessus. Moi, en tout cas, dans mes études de psychologie, j'ai pas étudié ça. Mais oui, il doit y avoir une réponse.
Parce que moi, en fait, je l'ai constaté que de plus en plus, en fait, je perds du sommeil. Est-ce que c'est dû aussi au fait que j'ai la thyroïde ? C'est ça aussi ma question.
Ah, je sais, je pourrais pas. Non, je pourrais pas répondre là-dessus, malheureusement.
Pas de le sommeil, c'est un sujet. On avait déjà, on avait fait une émission sur ça. Oui. C'est un sujet tellement complexe parce que finalement, on nous dit 8 heures de sommeil, voilà. Les enfants dorment beaucoup plus et puis plus on grandit, plus c'est que c'est à l'heure. Mmh. Alors qu'au finalement, c'est tellement propre à chacun, selon c'est notre mode de vie, selon nos habitudes, selon le pays où est-ce qu'on vit.
Oui. Le rythme.
Je le remarque, ne serait-ce que quand je vais en vacances dans un pays chaud, mon rythme de sommeil n'est pas du tout le même. Je vais me réveiller à 5h du matin sans problème, alors qu'ici, me réveiller à 5h du matin, c'est...
Et après, voilà, ça dépend de plein de choses.
Donc, je pense que c'est vraiment...
Ça donne de la personne. Moi, par exemple, je suis TDAH, ce qui fait que, par exemple, quand j'ai 7h ou 8h de sommeil, c'est pas possible. Si je fais 7 à 8 heures de sommeil, le matin, me réveiller, c'est très, très compliqué. Voilà, avant que je puisse retrouver mon énergie, c'est compliqué. Je fais 3 heures de sommeil.
T'as plus la pêche après.
J'ai plus la pêche, je peux enchaîner des heures de travail sans souci. Donc, ça dépend vraiment de chacun.
Comme quoi, il y a des sujets, il ne faut pas se focaliser sur ce que l'autre vit ou comment est l'autre. Il faut vraiment apprendre à connaître son corps et son esprit.
Exactement, c'est ce que tu disais justement au début d'émission, apprendre à connaître son corps, c'est très important.
Qui va être important. Je donne juste une précision pour les jeunes qui nous écoutent. J'ai bien dit TDAH, ça ne veut pas dire que tous les TDAH ont besoin que de 3 heures de sommeil.
Pour
ça
toi.
Ça dépend des personnes, je parle de moi personnellement.
Oui,
Bon, Claire. Oui.
Du coup, la santé mentale, ça influence tout dans notre vie. Ça veut dire que ça peut être comme, le physique, si on est en forme physiquement, dans la tête. Par exemple, on va être plus attentif si on dort plus, ou si on dort trop même. Si on dort trop, ça, on peut se ramollir un peu.
C'est une très bonne question, si vous permettez.
C'est une bonne remarque,
Ouais, très bonne remarque, parce que je l'ai constaté quand je fais mes émissions de radio. En fait, quand je n'ai pas assez dormi, j'arrive pas à me concentrer, exactement. J'arrive pas à me concentrer et ma mémoire me joue des tours. Et dès que j'ai fait mes nuits normales, mais je suis opérationnelle.
C'est ça.
Je dépasse le summum de mes capacités.
Mais moi, je le ressens à l'école et tout. Quand, par exemple, je me suis couché à 1h du matin... Bah, pour beaucoup, c'est pas très tard, mais pour moi, c'est tard. 1h du matin, je me réveille à 7h et quelques. J'ai eu 6h, c'est déjà bien. Mais je me sens moins en forme que si j'ai dormi avant 3h, par exemple.
Exactement.
Et je suis plus concentré à l'école, j'ai plus levé le doigt, j'ai plus participé.
Et tu trouves que ta mémoire, elle est plus fluide.
Ouais, et surtout dès le matin, t'es actif, en fait.
Voilà.
T'as pas le temps, ton cerveau. Il réfléchit pendant 2h et à 10h, tu rentres dans ta journée de cours.
Donc, en parlant des cours, de votre scolarité et du mental, comment ça se passe pour vous? Donc, mis à part le sommeil, comment vous vous sentez quand c'est les périodes d'examen, par exemple? Est-ce que maintenant, au lycée ou peut-être au collège, vous avez eu des périodes où on vous a parlé de santé mentale? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans vos établissements?
Bah déjà, nous, en tout cas, moi et mon camarade, il y a une pédopsychiatre, c'est ça?
Non, une psy.
Une psy qui est là, qui est présente.
Au lycée.
Oui.
Mais en fait, après moi, pour mon parcours scolaire, moi, normalement, on m'avait dit... parce que moi, je suis un peu flemmard, on va dire. Et on m'a dit, on préfère que tu ailles en bac professionnel. Je n'écris pas du tout le bac professionnel. Mais ils m'ont dit, ouais, il y a moins de charges de travail parce qu'on sait que tu as les capacités, mais tu ne vas pas travailler. Donc moi, j'aurais dit, ok, je vous suis. Et actuellement, là, c'est la période du baccalauréat, là, dans 5 jours.
C'est pour ça que je pose.
Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont en bac en général et tout. Et ça bosse. Hein. Franchement, là, ça fait 2 semaines, ils sont chez eux, à la bibliothèque, et je ne les vois plus. Et moi je, franchement, psychologiquement, je pense que j'aurais pas tenu cette cadence-là.
Ah oui,
j'aurais tellement pas tenu, tous les jours, je révise 3 heures, non, impossible.
Donc tu valides ce qu'on t'a conseillé auparavant.
Franchement, ouais, je valide, mais j'aurais bien voulu voir un peu ça donnait quoi, la générale, quand même.
Est-ce que t'as travaillé pour?
Non, j'aurais...
C'est ça la vraie question. Parce que effectivement, vous avez des psychologues, que ce soit au collège et au lycée, c'est les psychologues d'éducation nationale, qui à la fois sont là pour le bien-être, mais aussi pour l'orientation. Et en fait, ils se basent sur les notes et la capacité, on va dire...
C'est ça. Moi, j'avais pas non plus 17, mais bon, j'avais 11-12 de moyenne. J'étais pas non plus très bas. Mais moi, on m'a expliqué que...
C'est le tronc commun qui regarde.
Ouais, ouais, c'est plus ça. Ouais. Mais ils m'ont dit, non, en fait, t'as un très bon comportement, t'es à l'écoute et tout. Mais à la maison, je travaille pas, donc ça va pas être possible, la générale, directement. Ils m'ont fait comprendre comme ça. Et moi, je l'ai accepté. Je leur ai dit, c'est vrai. Donc, je peux pas le nier que j'ai pas assez travaillé. Mais...
C'est bien, en fait, il reconnaît qu'il a pas assez travaillé.
Mais
surtout, moi, t'es honnête, c'est bien.
T'as une certaine connaissance de toi-même.
C'est
de...
Ça. Moi, franchement, quand je suis allé en bac professionnel et tout, en fait, on va dire que j'étais dans le déni jusqu'à le jour où j'ai eu mon résultat où j'allais être affecté. Je me suis dit, non, ça va être bien et tout. Après, je me suis dit, en fait, non, j'aurais dû plus faire ci, j'aurais dû plus faire ça. Et
est-ce que c'est une bonne chose, Maïmouna, les si, j'aurais dû, c'est quelque chose, bon...
De positif.
Peut-être qu'on pense pas, mais moi, pour ma part, je dirais que ça, qu'au niveau charge mentale, c'est tout le temps se ruminer les j'aurais dû ou peut-être que si. Est-ce que c'est quelque chose de bon?
C'est pas quelque chose de bon, surtout quand c'est dans la rumination. Dans la rumination, c'est-à-dire que je me répète ça et en fait je rentre dans une phase de culpabilisation où je me dis, pourquoi je n'ai pas fait ça? Et là, je suis là parce que, il y a plein de choses que j'ai mis en priorité alors que j'aurais pas dû. Ouais. Donc voilà, donc après, ça rentre dans cette phase de culpabilisation. On peut se poser la question de si j'avais fait ça, mais si derrière, c'est constructif en réalité. Ouais, si derrière, j'arrive à trouver des solutions et tout.
Moi, je me suis dit, je vais travailler. Et là, actuellement, j'ai eu mon affectation et je vais à l'université. Donc en vrai, j'ai pas...
Bravo, félicitations.
La détermination.
C'est ce que j'allais dire, détermination.
Merci, oui, Tia.
J'ai une question à poser par rapport à ce qu'il vient de dire. Oui. Est-ce que tu penses que, tu viens de dire, le fait de ruminer tout le temps, de rabâcher tout le temps, donc comme tu viens de dire, des choses, même si c'est positif, tu dis que c'est pas bon psychologiquement de toujours dire... les mêmes choses, parce qu'on me dit, ma famille me dit, mes amis, Tia, tu radotes. Alors, je voudrais savoir si c'est pas bon de radoter positivement.
Après, radoter et ruminer, c'est pas pareil.
Radoter et ruminer. Ouais, en fait, pas ruminer, mais radoter.
Parce que, ruminer, c'est quand je suis dans mon cerveau et que j'essaye de rejouer plusieurs fois des événements qui ont eu lieu. Voilà, je me rappelle des phrases qu'on m'a dit, des phrases que j'ai dites. C'est ça, ruminer. Et en fait, la plupart du temps, les personnes qui ruminent, c'est négativement. Et en fait, à un moment donné, ça vient jouer. Encore une fois, quand je rumine sur un événement qui a été négatif, ça crée une émotion négative et je garde cette émotion dans mon corps. Et j'aime bien dire à mes patients, une émotion, en réalité, ça dure 5 à 10 secondes. Voilà. Quand elle reste plus longtemps que ça, c'est parce que j'ai décidé de lui donner de l'importance à cette émotion-là. Et donc, je me focalise tellement sur cette émotion-là qu'elle prend de la place dans ma vie et dans mon corps. D'où le fait qu'une émotion de tristesse, de colère et tout peut durer pendant des années parfois ou pendant des mois.
Et donc, ça empêche d'avancer, de penser à faire autre chose, alors.
C'est ça, exactement.
Faut que j'arrête, alors.
Écoute, si tu vas aller, je pense qu'on le fait tous, consciemment, inconsciemment.
Bien sûr, on le fait tous.
Mais voilà, ça fait partie du travail à faire sur soi. Mmh. Pour finir l'émission, malheureusement, on doit terminer. Mais c'est pas grave, on se retrouvera pour une deuxième partie avec vous. Hein. J'ai des petites dernières questions pour vous. Dites-nous, donc c'est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre?
La différence.
Donc en fait, on parle depuis tout à l'heure de psychologue, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur les différents corps professionnels de santé au niveau.
En fait, le psychologue, c'est celui qui va vous accompagner dans la thérapie. Donc, en fait, on va venir travailler, que ce soit les schémas psychiques, les schémas psychologiques, les croyances, et on va venir changer c'est des modes de pensée, comprendre des événements. Quand on a des traumas aussi, pouvoir travailler sur les traumas. Donc, c'est vraiment ça. Le psychiatre, il va avoir une partie du côté psychologique, mais surtout, il a ce côté médical. C'est un médecin, en réalité, qui peut prescrire des médicaments. Le psychiatre, on va le voir quand on a des troubles psychologique. Donc, tout ce qui est dépression, tout ce qui est de l'anxiété aiguë, tout ce qui est schizophrénie, bipolarité. Voilà, donc là, c'est le psychiatre qui va pouvoir faire l'accompagnement. Et comme je dis, c'est un traitement qu'il va donner. Il va dire, par exemple, à son patient, bah voilà, je te donne ce traitement-là, tu le prends. À la fin du traitement, on se revoit, on voit s'il faut réguler. Le psychologue, il va plutôt accompagner dans la thérapie pour trouver des solutions et changer l'état du patient. La plupart du temps, quand on va voir un psychiatre, il va rediriger vers un psychologue pour qu'il y ait un suivi.
Et qu'est-ce qu'on peut dire des psychothérapeutes et des psychanalystes ?
C'est encore deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Bah, le psychanalyste, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, c'est... Vous connaissez Freud ?
Bien sûr, okay. Non, ça ne me dit rien.
Oui. Bon, ça veut dire
vous n'avez pas été à l'école, vous connaissez pas Freud.
C'est l'école freudienne. Si. La plupart du temps, le psychanalyste, on va être sur un divan. C'est nous qui travaillons, qui cheminons, qui allons cheminer en réalité. Ah, oui. On va se poser les questions, on va se parler un petit peu à nous-mêmes. Et effectivement, le psychologue psychanalytique, il va être là pour faire les liens. Quand on va voir un psychanalyse, la plupart du temps, le suivi dure des années. Ouais. Le suivi dure des années.
On a dit suivi sur du long terme pour meilleure santé. Pas l'immédiat, pas l'addiction.
Alors que la thérapie, on peut avoir des personnes qui font de la thérapie brève, qui vont utiliser des outils. Par exemple, on peut avoir les TCC, donc tout ce qui est trouble cognitivo-comportemental. On peut avoir l'EMDR, tout ce qui est en lien avec les traumas. On peut avoir la PNL, comme je vous disais tout à l'heure, la programmation neurolinguistique. Donc là, c'est des thérapeutes. Donc des fois, ils peuvent même faire une formation de quelques années pour avoir le diplôme de thérapeute, qui est différent du diplôme de psychologue, qui est là reconnu par l'État et donc un master de 5 ans. Mais ils peuvent exercer en tant que thérapeute.
D'accord, je vais poser la question parce qu'on a tendance à dire psy, ouais. alors que
c'est pas la même chose. Après, moi, le conseil que je donne à chaque fois, et je dis toujours à mes patients aussi, c'est il faut choisir son psy. C'est pas parce que je vais voir un psychologue que ça ne se passe pas bien, qu'il faut que j'arrête la thérapie ou voilà, que tous les psychologues ne sont pas bons. Il faut juste trouver le bon psy avec qui ça passe, hein, le psy qui va me comprendre. Et il faut savoir ce que je recherche. Il y a des personnes qui vont dire, moi, je préfère être en psychanalyse, je vais parler. Des fois, le psy, il fait des liens, là, il va se diriger vers la psychanalyse. Il sait qu'il va avoir une séance par semaine et que ça peut durer des années. Et il y a des personnes qui vont dire, non, moi, je ne vais pas bien, je veux une solution maintenant, entre guillemets. Il va passer par la thérapie brève et par des outils où on va travailler avec le conscient et l'inconscient.
Qu'est-ce qui peut aider à choisir un bon psychologue qui nous correspondrait plus et qui pourrait mieux nous comprendre selon, là par exemple en France, où il y a beaucoup de mélanges de cultures, de religions, qui pourraient donc, en plus donc, de toutes les études professionnelles qu'il y a, ne pas négliger cette partie-là culturelle, religieuse, qui peut être importante pour certaines personnes, et allier les deux sans la rejeter ou sans la diaboliser, ou voilà.
Ça dépend de son besoin, en réalité. Ça dépend du besoin que j'ai. Moi, j'ai plein de patients qui viennent me voir. Ils vont me dire, je suis venue vous voir, vous, parce que je sais qu'on a à peu près la même culture, culturellement parlant. Vous allez comprendre mon histoire et ce que je vais pouvoir dire, ce que j'ai vécu. Ou encore, il y en a certains, ils vont me dire, je voulais parler plutôt du côté religieux. Donc, ça dépend de ce qu'on va rechercher.
D'accord.
Sonia, je peux poser éventuellement une question sur ce sujet ?
Une dernière question, après on va devoir... clôturer.
Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas aller voir un psychologue, c'est quelque chose de dramatique ?
Il n'y a rien de dramatique dans la vie. Il n'y a rien de dramatique dans la vie, mais par contre, c'est une bonne chose. Parce que quand on va mal et qu'on ne va pas chercher de l'aide extérieure, en réalité, la question, c'est est-ce que je veux aller mieux ? Ou est-ce que je veux rester dans mon truc de je vais mal et je me conforte du fait d'aller mal et je reste dedans. Donc si je suis dans la recherche de solutions, même si c'est pas un psychologue, si je sens que c'est un psychiatre qu'il me faut, je vais aller voir un psychiatre. Si je sens que c'est un médecin qu'il me faut, je vais aller voir un médecin. Mais si je sens que c'est psychologique et j'arrive pas à trouver la cause, aller voir un psychologue, même si c'est une séance, deux séances ou trois séances, ça peut être une bonne chose.
Merci pour cette réponse.
Merci, merci beaucoup. Donc, si vous aviez un dernier message à transmettre aux auditeurs, ça serait quoi ? Donc, c'est une question qui s'adresse à tout le monde en une petite phrase.
Pensez à votre santé mentale, prenez soin de vous, posez-vous les bonnes questions et n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel.
Les garçons, un message ?
Moi, j'ai vu parler de la conscience. Parce qu'en vrai, il y a des gens, ils ne savent pas s'ils vont bien, s'ils ne vont pas bien. Tout ça. En vrai, il faut...
Prendre conscience de son état.
Conscience. En fait, il faut souvent... Moi, je trouve qu'on ne prend pas assez de recul sur notre vie. Genre...
ça y est, il est pas.
Attends. Du coup, en fait, on ne prend pas assez conscience de notre vie. Et on a... Moi, en tout cas, depuis que quand j'étais petit, on me disait souvent... Ouais, quand tu vas dans ton lit et tout, avant de dormir, remémore-toi ce que t'as fait la journée et tout, et ce que t'aurais mieux faire, mal faire, et tout, histoire d'avancer et d'être un homme meilleur chaque jour.
Ça, c'est une bonne...
Il est bien, ce petit jeune.
Ouais, j'aime bien ça...
Tu peux me redire ton prénom, s'il te plaît.
Farouk.
Ah, bravo, Farouk.
J'aime bien la petite fin de Farouk, donc je vous propose de finir sur cette jolie phrase de Farouk. Je tiens à rappeler que, en tout cas dans le 13e et dans Paris, vous pouvez retrouver plusieurs organismes pour consulter, donc Psycom, Mon Soutien Psy à la SPAM. Il y a des associations également, plusieurs associations comme ASM 13 dans le 13e. Ceux qui sont scolarisés, n'hésitez pas à aller voir les psychologues de l'école, du collège, du lycée.
Ne vous inquiétez pas, oui.
Hein ?
On va les voir.
Vous allez les voir ? D'accord, j'irai vérifier. Hein.
On va venir vérifier.
Voilà, docteur, peut-être d'autres organismes à proposer où on peut consulter facilement, surtout quand on a peu de moyens.
Bah, ce sera vraiment Mon Soutien Psy, oui, effectivement, où il y aura 12 séances qui seront remboursées. Ouais.
Pour sur l'année. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, à Maïmouna Sek, pour votre présence. Merci, merci pour votre témoignage, Tia. Merci
rien,
aux jeunes bien. Pour leur participation
de rien,
aujourd'hui. Qu'on va retrouver pour un autre épisode de Santé Mentale très prochainement. Mmh. Ouais. Ouais, vous allez être là tous.
On sera là.
Et pour finir, bah, prenez soin de votre santé mentale. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et on se retrouve sur Mon Paris Santé pour une nouvelle thématique.
Mon Paris FM.